Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Et bienvenue sur Alors on change, l'émission d'Alternative à Villefranche-Beaujolais, où nous parlons de questions sociétales en lien avec l'urgence climatique, l'environnement et la justice sociale. Aujourd'hui, nous allons creuser des polluants éternels et de leurs effets sur nos vies en Calade comme ailleurs.
Mais comment faites-vous pour durer si longtemps ?
Parce que je suis dur, mon enfant.
Et comme avec T+, la poêle T dur plus, on comprend que les gens y soient très attachés.
On les appelle polluants éternels parce qu'ils ne se dégradent pas dans la nature. Ces composés chimiques toxiques sont partout. Dans nos vêtements, nos ustensiles de cuisine, nos cosmétiques, nos maisons, dans nombre de pesticides et herbicides et dorénavant dans notre eau potable, du moins dite potable, qui est massive.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier, un émier, l'estomac.
Si à 70 ans je développe un cancer de la prostate, il y a de fortes chances que ce soit dû à des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse de ma mère.
Tout à fait.
Quand vous allez dans un congrès de cancérologues, personne ne parle de PFAS, c'est vraiment résiduel.
J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guibolles.
Tout est la question de savoir si c'est dangereux ou pas, parce qu'il y a des composants qui sont dans la nature, qui sont toxiques pour l'être humain, mais si on n'y est pas exposé, c'est pas grave.
Vous savez qu'on retrouve des PFAS jusque dans la graisse des ours polaires.
Moi je n'aime pas ça, je n'en mange pas.
Là il y a aussi un risque d'amplification avec l'effet cocktail de ces substances.
J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer.
Des traces de polluants éternels dans le vin européen.
Je ne prends pas de champagne.
Un très grand nombre de ces molécules ne sont pas dangereuses et ce serait dommage finalement de tuer toute une branche d'applications extrêmement intéressantes pour quelques molécules dangereuses.
La pollution chimique, c'est le crime parfait en fait. C'est-à-dire qu'elle est tellement diffuse aujourd'hui, que ce soit dans l'environnement ou par le contact avec les objets du quotidien.
Santé.
Dans l'alimentation, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire.
C'est la nature du système libéral de faire reposer la responsabilité sur les individus, y compris de trouver les solutions des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés.
Les PFAS sont des outils pour lutter contre l'obsolescence. Et finalement, ça a une vertu écologique.
J'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent.
Si nous ne produisons plus de poêles, les Chinois vont en importer et envahir notre marché de produits toxiques parfois. Ces dogmatiques mènent au grand remplacement de notre industrie.
Tefal, de son côté, continue à dire que le PTFE qui a remplacé le téflon n'est pas dangereux, alors que des PFAS sont émis lors de sa production et sa destruction, et que l'ARS en a retrouvé dans les rejets actuels de l'usine.
Si on prend un morceau de poids Tefal, eh bien, on va avoir, on va l'excréter, on ne va pas le stocker dans le corps, et ce morceau de PTFE ne passera pas dans le sang.
Ah bon Dieu, c'est embêtant d'être toujours patrinque. Ah bon Dieu, c'est embêtant. Je ne suis pas important.
La pollution chimique, c'est le crime parfait, avons-nous entendu dans ce montage réalisé avec brio par Jean-Christophe. Merci à lui. Pour évoquer ce crime parfait des polluants éternels qui sapent notre santé, nous sommes en studio avec Anne-Marie Mocnik, médecin généraliste à Lima et membre d'Alternativa. Bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir Anne-Sophie.
Anne-Marie, par le biais de ta patientèle, tu es régulièrement confrontée dans ta pratique pro à la question des polluants éternels et plus précisément à toutes ces maladies chroniques qui en découlent et dont on va parler ce soir. Et comme c'est sous l'angle de la santé environnementale que nous avons décidé de monter cette émission sur les polluants éternels, il nous a semblé tout évident de te proposer de venir derrière ce micro. L'actualité regorge depuis plusieurs années d'informations assez anxiogènes sur la présence des particules chimiques qui viennent perturber notre santé. En ce début de mois, l'info-choc a concerné l'air des salles d'escalade qui contient autant de particules de caoutchouc que les bords des autoroutes. Et cela est dû au matériel utilisé pour fabriquer les chaussons. C'est le même que ceux des pneus. Un peu plus tôt dans l'année, mis sous pression notamment par l'importante mobilisation d'associations environnementales, mais aussi par l'accumulation d'études et de rapports scientifiques, les parlementaires avaient adopté le 20 février une loi historique pour combattre les polluants éternels. Et on note d'ailleurs là l'importance des niches parlementaires, puisque c'est sur une proposition de l'opposition du groupe des écologistes que la loi a été introduite devant l'Assemblée nationale et adoptée en première lecture. Les modalités de la loi doivent être précisées d'ici l'été par un décret qui va fixer tous les détails de son application. Alors autant dire qu'il va falloir être attentif à la rédaction de ce décret et prêt à réagir. Parce qu'en effet, les polluants éternels, les PFAS, les perturbateurs endocriniens, tout cela fait partie de notre quotidien. Alors comment les définir ? En quoi leur présence massive est un défi de santé publique ? Quel rôle et quelle posture les dirigeants, qu'ils soient locaux, nationaux ou même qu'ils siègent au niveau du Conseil de l'Europe, quel rôle jouent-ils dans l'encadrement de ces matières chimiques ? Et nous, citoyens et citoyennes du Beaujolais, en quoi nous sommes concernés ? Et comment se prémunir au mieux des effets de ces substances chimiques sur notre santé ? Eh bien, c'est de tout cela que nous allons parler au cours de cette émission.
Calade 100.9.
Et on commence cet échange avec toi, Anne-Marie, pour commencer à nous définir un petit peu sous ces termes. J'ai parlé de PFAS, de polluants éternels, de perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce qu'il faut utiliser un petit peu comme bon terme, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a un bon terme ? Et puis surtout, comment toi, en tant que médecin généraliste, tu as été intéressé par cette question-là ?
Alors moi, je suis installée depuis une vingtaine d'années à Lima et depuis à peu près entre 5 et 10 ans, je vois apparaître de plus en plus de cancers du sein chez des femmes qui ont moins de 50 ans, alors que les dépistages, c'est à partir de 50 ans, et aussi chez des femmes beaucoup plus jeunes, moins de 40 ans. Et puis aussi l'émergence de cancers du pancréas, qui était plutôt un cancer qui était plutôt rare jusqu'à présent. Alors pour parler des perturbateurs endocriniens, jusqu'en 2018, on en avait à peu près moins de 5000 répertoriés. Et aujourd'hui, on en est à plusieurs millions et ça va probablement augmenter.
Ces PFAS-là, on les a retrouvés maintenant ? Ils n'existaient pas avant ?
Non, ils existaient, mais ils n'étaient pas répertoriés. Donc en fait, on fait des listes maintenant de perturbateurs endocriniens parce qu'on sait que maintenant, il y a une vraie incidence sur la santé de la population. On a donc des perturbateurs. Alors on peut reprendre la définition de l'OMS, qui est cette définition-là, qui sont des substances ou mélanges de substances exogènes. Exogènes, ça veut dire que ce n'est pas fabriqué par le corps humain. Et qui sont susceptibles, le mot important, susceptibles d'altérer les fonctions du système endocrinien. Alors le système endocrinien, c'est quoi ? C'est des organes qui vont sécréter des hormones, ça veut dire la thyroïde, ça veut dire les testicules, l'hypophyse, les ovaires. Et elles vont sécréter ces hormones qui vont aller dans la circulation sanguine et qui vont agir à distance sur des fonctions telles que la reproduction, la croissance, le métabolisme, le développement sexuel, le développement cérébral. On a deux types de perturbateurs endocriniens. On a des produits de synthèse qui miment les effets d'hormones. Et puis, on a surtout des produits chimiques. Et eux, ils peuvent vraiment interférer avec le système endocrinien. On en a plein. Et dans les perturbateurs endocriniens, on a une section particulière qui s'appelle les PFAS. Et c'est ce qui intéresse, en fait, le gouvernement. C'est que ces PFAS, on les appelle aussi polluants éternels. C'est la même chose. On les trouve dans les produits de consommation courante, les textiles, les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie. On les retrouve aussi dans les cosmétiques. La problématique de ces perturbateurs, c'est qu'ils sont lipophiles, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont s'accumuler dans le tissu graisseux. Et ils sont hydrophiles, ils sont solubles dans l'eau. Ils sont très, très stables dans l'environnement extérieur. Ils naviguent dans l'air sur de longues distances. Donc, c'est pour ça qu'on
En fait, ils sont partout.
Exactement, ils sont partout.
Et j'avais lu, en préparant l'émission, qu'ils sont éternels parce qu'en fait, ils ont été créés par la chimie et ils sont très difficiles, finalement, à casser chimiquement.
Exactement. Et puis, ils sont stockés dans le tissu. Nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas les éliminer.
D'accord.
Et puis, les bio-organismes n'arrivent pas non plus à les éliminer, que ce soit dans la nature. Dans la nature, on n'arrive pas à les éliminer. Alors, c'est pour ça qu'on en trouve au niveau des pôles, dans les mers, dans le sang des animaux sauvages, dans l'air des hautes montagnes. On en trouve de partout.
OK. Et ça, c'est le fait qu'on les trouve aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils existent depuis que 5 ans ou 10 ans, c'est vraiment parce qu'on s'est mis à les chercher, quoi.
Alors, on s'est mis à les chercher. Enfin, j'en parlerai peut-être après, pourquoi on s'est interrogé justement sur les facteurs environnementaux et notamment les perturbateurs endocriniens. Je reviens sur les groupes de perturbateurs endocriniens, notamment sur les PFAS, donc ça c'est des composés perfluorés, les polluants éternels. Et puis on a des petits copains, par exemple le phtalate, qu'on retrouve dans les détergents, les solvants. Alors ça, on peut retrouver ça sur Internet, il y a des listes entières. Les plus importants, le parabène aussi, il est vraiment utilisé dans 80% des cosmétiques. Il a un effet antibactérien, antifongique, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Le bisphénol A, alors on en a beaucoup
entendu parler,
tout à fait.
Dans les biberons.
Dans les biberons. Alors, ça a été interdit. Alors, moi, j'ai élevé mes deux filles au bisphénol A.
Je pense qu'on a été très nombreuses à le faire à notre génération.
Exactement. Donc, principalement utilisé dans le plastique. Il a été interdit, effectivement, en 2015, dans les conditionnements en contact direct avec les aliments. Donc, les composés perfluorés dont on parlait tout à l'heure, c'est les polluants internels. On a les retardateurs de flamme bromés, donc ce qui rend un peu les produits moins inflammables. On a les organochlorés. Alors ça, c'est des vieux, c'est des pesticides, des phytosanitaires. Le DDT, par exemple, qui a été déjà connu dans les années 50, c'est un des premiers pesticides qui est arrivé sur le terrain. Et on en a parlé aussi du chlordécone récemment, parce qu'il a été interdit dans les Antilles françaises, dans les bananeraies.
Et donc, c'est cette grande famille-là qu'on retrouve vraiment de perturbateurs endocriniens qu'on retrouve vraiment partout. Et on s'est penché aussi là-dessus en préparant cette émission, en voulant savoir aussi dans notre environnement ici dans le Beaujolais comment ça se passait. Et donc, on est allé à la rencontre de Mathieu Chastagnol de l'association Nous voulons des coquelicots. Et c'est Monique qui l'a rencontré aux abords d'une école à Saint-Lager.
Bonjour Mathieu, vous êtes un des représentants de Nous voulons des coquelicots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on se trouve là ?
Alors là, on est dans le Beaujolais, en plein milieu des vignes, et on est dans une petite commune qui s'appelle Saint-Lager, pas loin d'une école. Voilà, comme dans tout le Beaujolais, il y a plein de petits villages avec des écoles primaires, publiques et privées d'ailleurs. C'est un endroit très joli, mais qui est quand même assez dangereux par rapport aux pollutions chimiques des pesticides.
Vous m'avez dit en arrivant qu'on sentait déjà quelque chose.
Oui, alors c'est le début du printemps, les feuilles sont déjà sorties et évidemment les viticulteurs ont déjà épandu un certain nombre de produits, dont des fongicides, puisque ce début de printemps est pluvieux. Donc on sent ces substances, ce qu'on sent aussi c'est le cuivre, qui est une substance qui est un peu moins toxique que d'autres, mais voilà, on sent déjà de la chimie dans l'air.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que la loi impose en termes de distance ?
Alors, la distance par rapport aux habitations, c'est dans la vigne 15 mètres. Ça s'appelle des ZNT, des zones de non-traitement. Et elle est fixée à 15 mètres, ce qui est beaucoup trop peu. Les scientifiques de l'INSERM, des médecins, préconisent 150 mètres minimum pour être un peu à l'abri de toutes ces maladies, voilà, et de cette pollution chimique. Voilà. Nous, on avait installé des capteurs en plein Beaujolais. On avait trouvé une parcelle entourée de vignes et on a installé 5 capteurs avec Génération Future. Et on a trouvé que le capteur central, donc, qui était le plus éloigné de la vigne par rapport aux 4 autres capteurs qui étaient plus proches de la vigne, donc à 15 mètres pour les plus proches et 80 mètres le central, a mesuré autant de pesticides, voire plus que les capteurs qui étaient proches de la vigne. Voilà, donc en fait, il faut s'éloigner beaucoup plus loin pour que cette pollution soit moindre.
Et qui est en danger avec tous ces traitements ?
Eh bien, moi, j'ai envie de dire tout le monde, parce qu'il suffit d'habiter pas trop loin, de pas avoir de chance. En fait, on n'est pas égaux par rapport à toute cette chimie. Déjà, par rapport à ce qu'on respire, il y a certains endroits où on respire plus que d'autres. Et évidemment, quand on habite proche d'une vigne ou qu'on travaille, c'est encore pire, dans une vigne, on est encore plus exposé. Voilà. Et là, on est à côté d'une école et les enfants sont des populations à risque particulier puisqu'ils sont en plein développement. Et du coup, ils sont plus sensibles à toute cette chimie et sont plus enclins à développer plus tard ou même assez rapidement des leucémies ou des maladies mortelles.
Et donc une pollution chimique diffuse, Anne-Marie, que l'on retrouve donc dans ces campagnes, dans nos campagnes, du fait de pratiques agricoles chimiques, avec des risques de santé à long terme, c'est-à-dire qu'on les verra que dans 50 ans, on peut aussi les voir que dans 50 ans. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être simplement, le plus simplement possible, comment ces perturbateurs endocriniens fonctionnent ?
Alors, un être humain, dans sa vie, il est exposé à plein de facteurs environnementaux, que ce soit le stress, les loisirs, la pollution chimique, la pollution sonore, le cadre de vie, l'alimentation. Et en fait, tous ces facteurs, ça va entraîner, ça va laisser des traces dans l'organisme. Mmh. Alors, les gènes, l'ADN, ça ne se modifie pas, en tout cas à l'âge adulte. Mais l'expression du code génétique peut se modifier. Et ça va du coup entraîner des réponses différentes. Si par exemple, je prends les abeilles, les larves d'abeilles qui sont nourries avec de la gelée royale, elles vont devenir des reines. Les autres vont devenir des ouvrières. Par exemple, il y a aussi une étude qui a été faite en Angleterre sur des femmes avec des conditions de vie difficiles, qui étaient dénutries, stressées, fumeuses. Mmh. Et elles ont donné naissance à des enfants avec des bas poids à la naissance. Et on a noté une corrélation entre ces bas poids à la naissance et l'émergence d'obésité, de diabète à l'âge adulte.
Okay.
Comme si le fœtus en fait, adaptait ce qu'on appelle son épigénome pour résister aux conditions difficiles de la vie dans le ventre de sa mère, et quand il devient adulte et quand les conditions sont moins difficiles, eh ben en fait il est plus adapté à son environnement, il va stocker du coup du gras et ça va entraîner du diabète, de l'obésité, etc.
Ok.
Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'en fait on a une émergence de maladies chroniques. Avant on mourait, les siècles précédents on mourait de maladies infectieuses.
Ouais.
La population mourait très jeune. La peste, ça a été un tiers de la population en moins en peu de temps. Aujourd'hui, on se rend compte que la population vieillissant et les habitudes de vie se modifiant, on a l'émergence de maladies chroniques, donc l'obésité, les maladies cardiovasculaires. Le problème, c'est que normalement, on devrait avoir une stagnation de ces maladies.
Ouais.
Et en fait, on a une augmentation, une explosion des maladies, de l'obésité, du diabète et notamment de l'autisme, des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant.
Donc ça, c'est scientifiquement, on voit cette augmentation. Et donc, quand on se demande pourquoi là maintenant ça vient en augmentation, on fait un lien avec
les facteurs environnementaux et notamment les perturbateurs endocriniens.
Donc tous concernés, tous à risque, voilà, de pouvoir développer plus tard ces maladies-là. Et la question du coup, c'est mais pourquoi les pouvoirs publics réagissent pas ?
Parce que c'est difficile de faire la preuve qu'un perturbateur endocrinien entraîne une maladie.
D'accord.
On a l'exemple du distilben. Dans les années 50, on a donné des œstrogènes de synthèse à des femmes parce qu'elles faisaient des fausses couches à répétition. Et elles ont donné des filles qui ont eu des cancers du vagin, des malformations utérines et aussi des malformations chez le garçon. Et des malformations aussi chez les petites filles. D'ailleurs, donc c'était un effet transgénérationnel.
Wow.
Donc ça, c'est facile parce que le distilben, ça a été prouvé. Il y a eu aussi, on a des études, il y a l'étude aussi Esteban qui a été lancé par Santé publique France en 2019 et qui a montré une imprégnation généralisée de la population. Alors, par des agents chimiques, on a parlé des bisphénols, du parabène, aussi par des métaux lourds, le plomb, les cadmiums, et effectivement aussi par des substances qui sont interdites depuis très longtemps, des pesticides, qu'on retrouve encore dans la population générale.
Et donc, on a du mal aujourd'hui à faire le lien entre le développement chimique d'une molécule, enfin de quelque chose qui va être dans notre environnement quotidien, et l'apparition de maladies.
Parce qu'en fait, il y a dans un matériau, il y a plusieurs PFAS,
okay.
PFAS, plusieurs perturbateurs endocriniens. Chaque polluant va donner des conséquences différentes. Ils vont avoir des effets différents. Les individus sont pas sensibles de la même manière. On a l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'on a plusieurs PFAS qui vont donner, ou perturbateurs endocriniens qui vont donner des effets différents. On a des actions qui sont sur du long terme, troisième génération. On a des individus qui répondent différemment, par exemple avec l'alcool. Les femmes, elles supportent moins l'alcool, on va dire. Donc c'est très compliqué de faire l'épreuve.
De trouver une cause à effet.
Exactement.
Entre un truc et quelque chose.
Exactement.
Et donc du coup, comme on va peut-être voir ça un peu après dans notre discussion, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau collectif et au niveau individuel pour réussir à faire face à ce risque majeur.
Chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je caché d'une ombre quand j'avais mal, même qu'elle pleurait.
Et vous venez d'écouter Johnny Hallyday dans Ma gueule. Et on est bien sur l'émission Alors on change, l'émission d'Alternative à Villefranche-Beaujolais. Et nous parlons des polluants éternels et de leur effet sur notre santé. Pour poursuivre dans cette discussion, j'ai interviewé récemment Edith Oresta, qui est à l'origine de la création d'un collectif assez récent sur le Beaujolais, la coordination santé-environnement Rhône. Elle en est donc la fondatrice et la co-animatrice et nous l'écoutons.
Déjà, merci de me recevoir et de me permettre de dire quelques mots de cette plateforme qui n'est donc pas une association, mais une plateforme qui regroupe une dizaine de grosses associations avec un objectif, c'est visibiliser cette partie nord du département dont on parle relativement peu. La vallée de la Chimie ne s'arrête pas au sud, elle est aussi présente au nord avec de nombreuses entreprises et notamment aussi beaucoup de terrains viticoles.
Et donc là, ce collectif qui regroupe, on peut les citer, Nous voulons des coquelicots, Alternativa d'ailleurs, d'autres encore ?
Oui, Génération Future, le réseau Environnement Santé, les coquelicots de Belleville, le collectif de Jassan, la Ligue de protection des oiseaux, France Nature Environnement, les eaux du Beaujolais, voilà à peu près.
Et quelques élus aussi qui viennent participer aux réunions. Oui. Ce collectif, il permet vraiment une mise en musique finalement des actions des uns des autres pour leur donner plus de voix et pour les enraciner plus dans le territoire, puisque effectivement tu disais que les pollutions ici existent aussi dans le Rhône-Nord. Il y a toujours ce très gros focus autour de la vallée de la Chimie à Lyon-Sud, mais c'est vrai que ici aussi on n'est pas exempt et on en a discuté. Et on en discute encore dans cette émission ici en studio avec Anne-Marie. Le collectif, il est vieux de combien de temps et qu'est-ce qu'il a pu entreprendre déjà ?
Alors ce collectif, en fait, il est né dans ma tête parce que moi, je suis beaucoup mobilisée, j'habite Neuville, j'étais beaucoup mobilisée par ma présence comme sur le réseau Environnement Santé dans le Sud pour les PFAS, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mm-hmm. Et je me suis un petit peu mise un peu en colère en me disant, mais il y a une invisibilité du Nord. Or, moi-même, dans ma commune, Neuville-Genêt, on a un site Céveso, donc ça veut dire un site dangereux, avec trois entreprises importantes, Arkema, BASF, et Univar, et je savais qu'il y en avait d'autres évidemment sur ce territoire de Jutia qui va jusqu'à Belleville. Donc je me suis dit qu'il était, par mon expérience nationale, donc j'ai un petit peu interpellé, et on a réussi à créer cette plateforme en se disant bien qu'il s'agissait uniquement d'une plateforme d'échange d'expérience pour aller plus vite et plus loin.
Et pourquoi ici chez nous, c'est aussi une question. C'est vrai que tu viens de parler de ces entreprises Céveso. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus quel est le pouvoir du citoyen par rapport à ça ? Il y a ces fameux commissions de suivi des sites, les CSS, auxquelles tu fais partie, auxquelles plusieurs membres du collectif font partie. À quoi ça sert ces commissions de suivi ?
Alors, Il y a, disons, globalement, une situation géographique où il y a une série d'entreprises très nombreuses dans tous les villages, Arnas, Belleville, Jassens, évidemment Villefranche comme grosse commune, toute l'agglo est concernée. Et c'est très important de dire que nous sommes, nous, les représentants dans des sites, donc il y a Arnas, Villefranche, qui a sur les sites de Campine et de Citréval, donc le traitement des déchets. On est aussi sur un site où il y a Bayers, Sérégrin, et donc trois grosses entreprises. On met l'accent sur pourquoi ces sites, ces réseaux, parce que elle relève vraiment d'une grande dangerosité, donc d'un besoin de contrôle. Donc ces CSS existaient, mais ce qu'il faut qu'on dise, et c'est tout à notre honneur, je me permets de le dire, elles se sont mises à vivre uniquement parce que la CERN les a sollicitées. Et je suis très en colère contre les élus et même certaines associations locales qui n'avaient pas réclamé que ces commissions se réunissent comme elles devaient le faire tous les ans. Donc depuis 2017, elle n'existait que sur le papier.
Et donc c'est grâce à ce pouvoir un petit peu, enfin à ce push que la CERN a pu réaliser, ces commissions elles se tiennent aujourd'hui et elles permettent à des riverains, à des citoyens d'accéder à ces sites dangereux et de se faire expliquer toutes les mesures réglementaires qui devraient être prises et qui sont prises et faire le suivi et questionner tout le temps les autorités. Mais tu me disais quand on a préparé cette émission que même quand il n'y avait pas de commission de suivi dans des petits endroits, des petits villages, il était quand même possible pour les citoyens de faire quelque chose.
Absolument. Et moi, j'appelle vraiment tous les citoyens sans paniquer dans leur commune. Éventuellement de se rapprocher de la mairie pour savoir quelles sont les entreprises qui sont sur la commune, qui ne sont pas forcément surveillées comme les entreprises Céveso, mais qui traitent des produits qui sont dangereux et la gravité, c'est qu'elles n'ont pas véritablement un contrôle aussi puissant. Elles devraient être contrôlées par les services d'État, mais ils ont parfois pas le temps de le faire. Donc la vigilance des citoyens là-dessus est super importante et surtout, ça peut venir par exemple comme à Jassens de citoyens qui ont senti des odeurs autour d'une usine qui brûlait des plastiques et à partir de cet questionnement sur les odeurs, on s'est rendu compte que c'était bien plus grave et que ça polluait l'air, l'eau et que donc c'était dangereux pour la santé, non seulement des riverains, mais assez largement. Donc moi, j'appelle tous les citoyens, nous sommes des représentants, mais nous ne pouvons pas tout seuls agir.
Et ça a fonctionné, hein, à Jassens, le fait de se pencher sur ces questions, parce que souvent les gens nous disent « Oh, mais ça sert à rien ».
Alors non, ça a bien servi parce que nous, notre puissance de représentants et de CERN, c'est que nous avons des liens directs avec les services de la préfecture, la DREAL, et que nous les interpellons et que nous leur exigeons de nous donner les rapports, de nous dire quand ils ont contrôlé, qu'est-ce qui a été contrôlé, et même on a pu obtenir qu'ils viennent assister à une réunion. Et on a interpellé le maire qui, lui, à Jassens, a bien réagi parce qu'il était sensible à ça, mais la plupart du temps, ça, ce que je peux dire aux citoyens, c'est qu'aussi bien à Arnas, à Jassens, à Villefranche ou ailleurs, quand on est dans les CSS, les élus soit ne viennent pas, soit ne s'intéressent pas. Or, c'est leur responsabilité de protéger la santé de leurs habitants. Donc, il faut les interpeller.
Et ça, la CERN, c'est un peu son dada, c'est de pouvoir récupérer un petit peu les retours des gens et puis les accompagner dans l'interpellation des élus, des autorités.
Tout à fait. Et j'incite, je vais donner une adresse mail, j'incite les personnes à nous envoyer par mail leurs questions, leurs préoccupations.
Et donc, le petit message que Edith voulait nous donner pour finir cette interview, c'était donc l'email de la CERN que vous retrouverez sur la page de l'émission du site de Calade. On la mettra en fin d'émission, mais je vous la donne tout de suite. C'est coordcern@gmail.com. Anne-Marie, la CERN qui s'est créée, donc ce collectif d'ONG, d'associations environnementales sur le territoire, ça démontre une capacité quand même d'un pouvoir à agir au niveau collectif. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont possibles au niveau collectif pour pouvoir amoindrir les effets de ces polluants éternels?
Oui, la problématique, enfin, il y a le côté, il y a des lobbying en face des industriels, donc c'est un peu compliqué. On pourrait faire
une émission
études,
en temps, entière sur le lobbying industriel.
Exactement. On a des études, on pourrait faire des études épidémiologiques, pardon, toxicologiques. Le seul problème, c'est que l'ANSES, en 2021, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, classifier ces perturbateurs endocriniens en suspectés, présumés et avérés. Et seuls les perturbateurs endocriniens avérés ont été interdits. Sachant que les industriels peuvent, en gros, enfin, je caricature un peu, mais fabriquer un perturbateur en 3 mois, il faut à peu près 10 à 15 ans pour réussir à l'interdire. Il faudrait aussi qu'on forme les médecins pour informer les patients. Ce serait bien, parce qu'on n'est pas très bien formés. Il faudrait du coup élargir l'interdiction des perturbateurs aux perturbateurs suspectés.
Donc, un rôle de l'État important.
Exactement. Il y a l'ONU a regroupé 160 pays, c'est la convention de Stockholm, pour interdire un certain nombre de produits, mais c'est lent, c'est long et c'est pratiquement impossible. On a aussi l'Agence officielle des régulations européennes qui a aussi accepté un programme qui s'appelle le programme REACH, qui demande du coup à un industriel qui met sur le marché un produit chimique, il doit faire la preuve de sa non-toxicité, mais il y a des milliers de produits qui sont mis sur le marché, et très peu qui sont étudiés. Donc ça, pareil, c'est impossible. Et puis, on a l'ANSES quand même qui a permis d'interdire le bisphénol A en 2015. Il y a une proposition de loi qui a été mise à l'Assemblée la semaine dernière pour réintroduire les néonicotinoïdes. Et heureusement, la proposition a été rejetée. Mais ça met quand même... En question le rôle de l'ANSES, quoi.
L'ANSES est un organisme public, oui, qui fait toute la recherche, qui mesure la dangerosité de tous ces produits chimiques sur notre santé. Et aujourd'hui, elle est un peu aussi, elle court un peu après le lièvre, quoi. On est derrière une industrie qui développe tellement, tellement, tellement vite que derrière nous, on a, le parapublic n'a pas les moyens de pouvoir suivre.
Tout à fait. Et puis on a la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui n'a absolument pas parlé des perturbateurs endocriniens jusqu'en 2019, ce qui est quand même un peu inquiétant. Alors, quand on parle de formation des médecins, c'est aussi les reconnaissances en maladies professionnelles, parce qu'il y a quand même des maladies qui ont été reconnues. La maladie de Parkinson chez les agriculteurs en 2012, le chlordécone avec le cancer de la prostate en décembre 2021, donc c'était hier. Donc il faut vraiment former les médecins du travail, les médecins généralistes, pour qu'on puisse informer les patients et puis surtout identifier les populations à risque.
Et quand on entendait Mathieu Chastagnol tout à l'heure de Nous voulons des coquelicots nous raconter que les populations, en proximité des endroits traités chimiquement, les populations étaient aussi atteintes, en tout cas propices à être atteintes. Du coup, cette reconnaissance professionnelle, on pourrait se demander pourquoi il n'y a pas de...
Et surtout que les populations les plus vulnérables, ça reste quand même les enfants, les femmes enceintes, en tout cas le fœtus.
Okay.
Oui, et puis les ados, les périodes pubertaires.
Okay. Où là, il y a un développement justement dans le physiologique qui fait qu'on est plus propice à accumuler
Tout à fait.
Ok. D'accord. On voit un peu la nécessité du travail en prévention et la gestion du risque un petit peu. Et du coup, on a eu l'occasion de pouvoir rencontrer une des infirmières qui travaille à ton cabinet médical. Elle s'appelle Perrine Jouanen et elle appartient au réseau Azalée, dont elle nous parle dans cette petite interview.
Je travaille dans un cabinet médical à Lima avec des médecins généralistes comme infirmière Azalée. Et donc, j'accompagne avec le médecin des patients dans le but d'apporter une prise en charge de maladies chroniques. Et aujourd'hui, au sein de du cabinet médical, nous souhaitons développer une approche en santé environnementale auprès de nos patients parce que les données scientifiques, elles indiquaient un lien vraiment entre l'augmentation des maladies chroniques, comme le diabète ou l'obésité, et aussi les facteurs environnementaux dont les perturbateurs endocriniens font partie. Alors nous envisageons de pouvoir proposer aux patients de mieux dépister la présence de ces perturbateurs endocriniens dans leur usage au quotidien. Et puis surtout, une fois qu'on les aura identifiés, de pouvoir mettre en place des habitudes de vie bénéfiques en tenant compte des possibilités et des difficultés de chacun. Pour vous donner un exemple de ce qui se fait dans d'autres régions, à Strasbourg, il y a des ordonnances vertes qui ont été mises en place et qui permettent de proposer aux femmes enceintes de bénéficier de paniers de fruits et légumes bio pendant toute la durée de leur grossesse pour vraiment préserver le capital santé de l'enfant en devenir. Parce qu'on sait que la période fœtale est une période clé pour permettre à l'adulte, l'enfant à venir, d'être en bonne santé.
Parce qu'aujourd'hui, on sait que ces polluants éternels ont des effets à très très long terme et que du coup, c'est sur la prévention, qu'il est important d'agir.
C'est ça. Et on connaît une forme d'irréversibilité sur ce qui se passe pendant que l'enfant est un fœtus. Donc c'est important de pouvoir agir à ce moment-là vraiment et de sanctuariser la femme enceinte et aussi le papa bien évidemment. Et puis après il y a donc ça c'est important, mais il y a aussi toute une partie de prévention quand les gens sont adultes et ça c'est réversible. On peut changer les choses quand les gens sont adultes.
Et ça, ces histoires enfin, cet exemple strasbourgeois d'ordonnance verte, c'est quelque chose que vous essayez de réfléchir pour voir comment le mettre en place dans
On
votre
réfléchit, on
région.
a des collègues qui font partie de l'association Azalée, médecins infirmiers, qui commencent à la mettre en place en Charente. Voilà, c'est un peu là que ça commence à se faire et on espère suivre aussi.
Calade 100.9.
Anne-Marie, on vient d'écouter donc une infirmière qui travaille avec toi, Perrine Jaouen. Elle nous parlait de ces ordonnances vertes. C'est un exemple de solution, enfin, en tout cas de quelque chose qui peut atténuer les méfaits de ces polluants. Est-ce qu'on peut espérer ça un peu dans le Beaujolais bientôt? Comment ça fonctionne de pouvoir trouver des solutions pour nous au niveau individuel par le biais des médecins?
Alors, les ordonnances vertes, elles ont été prises en charge, enfin, le coût a été pris en charge par les collectivités.
Okay.
Donc, c'est une décision politique. Pour l'instant,
Collectivité territoriale.
voilà, tout à fait. Et on n'a pas, enfin, on y réfléchit pour l'instant, mais on n'a pas approché les collectivités. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les études montrent que la principale source de contamination, ça reste quand même les aliments. Et que, comme disait mon collègue du Nord, le bio, c'est pas que pour les bobos. C'est très important de manger bio. Alors, je sais qu'il y a des problèmes de coût, des problèmes d'accessibilité. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, toutes les études montrent que si on mange bio, ben, ça diminue les cancers du sein en période pré-postménopausique. Ça diminue les risques de pré-éclampsie. C'est une maladie de la grossesse avec l'hypertension pour la maman. Ça diminue les cancers du sein qui sont déjà avérés. En fait, même en changeant son alimentation, même si on a un cancer, le fait déjà de modifier sa façon de vivre peut entraîner des modifications bénéfiques pour le corps humain, même si on est en phase de cancer. Enfin, il faut vraiment avoir cet espoir-là, c'est qu'on peut changer tout maintenant, tout de suite. Mais alors après, il faut aussi que les conseils, les femmes enceintes, on leur demande plein de choses déjà, de manger équilibré, de pas grossir, de pas ci, de pas ça. Il faut pas non plus leur rajouter. Et on pourrait Avec Perrine, on parlait justement d'une consultation préconceptionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas que la maman qui est importante, c'est aussi le papa, si le papa est fumeur. Par exemple, l'arrêt du tabac, c'est 30% de spermatozoïdes en plus dans les 3 mois.
OK.
Et qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en 30 ans, on a une diminution de 50% des spermatozoïdes à cause des perturbateurs endocriniens. C'est aussi, alors il y a plein de choses, hein, c'est l'arrêt du tabac, mais entre ne pas chauffer, par exemple, les plastiques dans le micro-ondes, c'est peut-être plus facile pour une femme enceinte de ne pas faire ça que d'arrêter de fumer. Enfin, je ne sais pas, on peut trouver des moyens pour les aider.
Et donc là, c'est en fait dans les stratégies que vous essayez de mettre en place, en tout cas que vous réfléchissez pour l'instant et qui se mettent en place de manière finalement très pointillée, enfin dans le territoire français, on est sur comment on accompagne les gens individuellement à se prémunir de ce qu'on n'arrive pas à interdire collectivement à très grande échelle. Est-ce que là, il y a un dialogue qui peut se faire avec les élus et comment il peut se faire ?
Après, on peut se calquer sur les ordonnances vertes de Strasbourg. Il y a tout un processus pour justement interpeller les élus, tout un processus pour mettre en place ce type de procédé. Donc on va s'y mettre, on va en discuter, on va approcher les élus. Et puis après, c'est une décision politique. Donc là, c'est plutôt, on pourrait, d'un point de vue médical, faire des consultations préconceptionnelles chez les femmes qui ont envie d'avoir des bébés, des consultations pour les femmes qui sont déjà enceintes, des consultations, enfin, en tout cas des conseils pour les enfants. Et il y a un site qui s'appelle les 1000 premiers jours, qui est très très intéressant, où on a plein de choses sur comment on peint la chambre du bébé, comment on aère la chambre du bébé. Enfin, vraiment, c'est très très intéressant et ça peut intéresser tout le monde.
On le mettra dans le chapeau de l'émission sur le site de Radio Calade.
Et puis manger bio, c'est pas que les légumes et les fruits, c'est la viande, c'est les œufs, c'est tout ça. Faut éviter les produits ultra transformés parce que c'est là qu'on trouve beaucoup d'additifs, beaucoup de perturbateurs endocriniens. Le tabac évidemment, pas chauffé au micro-ondes, le plastique. Attention aux canalisations enceintes, attention aux cosmétiques chez les femmes enceintes, donc les vernis, les couleurs de, enfin, les teintures de cheveux, les colles qui sont bourrées de plomb, laver les vêtements quand on les a achetés, ne pas utiliser d'huile de friture. Il y a une espèce de substance qui s'appelle l'acrylamide et qui est vraiment une substance cancérigène. Donc si on peut éviter ça pendant la grossesse, c'est bien.
Mais ces conseils que tu donnes pour la grossesse, c'est parce que tu nous as parlé tout à l'heure de la perméabilité pour l'enfant et puis pour le devenir de ce fœtus. Mais il concerne aussi finalement tout chacun.
Tout le monde. Okay. Mais le c'est irréversible chez le fœtus. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des modifications chez le fœtus, ça va être compliqué de changer les choses. Alors qu'à l'âge adulte, on parlait de génome et d'épigénome tout à l'heure. Pour l'adulte peut changer son épigénome pendant la conception de l'enfant, enfin tout début. Une fois que c'est installé, une fois que l'ADN est installé, on peut plus rien modifier. Donc c'est vraiment hyper important en phase préconceptionnelle et en phase conceptionnelle.
D'accord.
Il faut préparer la maman. Par exemple, il faut la supplémenter en iode, en acide folique pour éviter les troubles du neurodéveloppementaux. Donc je pense que c'est important de se rapprocher de son médecin avant de vouloir avoir un bébé. Mais évidemment, ça concerne toute la population.
Ok. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des territoires en France qui sont plus en avance ? Enfin, on a vu avec ces ordonnances vertes à Strasbourg. Est-ce que, au niveau national, il y a un trop fort lobbying ? On a vu cette loi dont je parlais dans l'introduction qui a diminué les PFAS à un certain endroit. Enfin, certains PFAS, mais pas tous. Un très fort lobbying industriel. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des territoires où on peut mieux contrecarrer, où c'est mieux de vivre finalement, ou bien finalement c'est vraiment la volonté publique, la volonté politique de chaque territoire qui est à nous, aux citoyens, de faire agir.
Alors, je pense que c'est les deux. Déjà la volonté politique dans tous les territoires, et puis nous on est dans une région viticole. Effectivement, avec des pesticides qui vont dans les eaux. Donc, on est dans une. Alors, on ne parle pas de l'eau, de la pollution de l'eau. Ce serait aussi encore
une autre émission.
Une autre émission. Mais en tout cas, on est dans une zone à risque dans le Beaujolais, oui.
Ok. Merci pour toutes ces informations, Anne-Marie. Peut-être un petit mot. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose qui te prenait?
Oui, moi, je voulais dire que l'Europe avait défini le coût d'une dépollution sur 20 ans, c'est 2000 milliards d'euros. Donc ces 2000 milliards, on peut les mettre dans les préventions. Je sais pas s'il y a de l'argent, mais en tout cas, plutôt que de guérir, c'est mieux de prévenir.
Ok. Eh bien, on va rester sur ces sages mots pour clôturer ce thème. Mieux vaut prévenir que guérir. Et n'hésitez pas, donc, suite à cette émission, à réagir sur les réseaux sociaux et à nous dire ce que vous pensez de tous ces PFAS et de tous ces polluants éternels que l'on retrouve un peu partout. Merci beaucoup à toi et puis à une prochaine fois.
Merci.
Pour un sujet sur l'eau, alors. Et il est maintenant temps de conclure ce temps de ce thème. Et on va poursuivre l'émission avec le conseil lecture de Bertrand Lamure de la librairie des Marais, qui nous propose ce mois-ci un petit dialogue entre Salomé Sacquet et Jean-Marc Jancovici.
Coup de projecteur sur un petit fascicule. En fait, c'est une collection chez Tandem qui donne la voix à deux personnes, donc un duo, sur une question particulière. Les jeunes peuvent-ils sauver la planète ? Un duo entre deux personnages qui sont devenus très médiatiques aujourd'hui. Salomé Sacquet. Alors Salomé Sacquet, on la connaît à la fois en tant que sociologue qui s'intéresse de plus en plus à la notion écologique, mais pas que, aussi à la notion politique. Son dernier recueil, Résister, a eu un succès assez phénoménal contre l'extrême droite. Et en parallèle, un personnage évidemment aussi très très présent qui est Jean-Marc Jancovici. Donc, personnage très emblématique, très intéressant, souvent aussi un peu décrié pour certaines positions, entre autres sur le nucléaire. Et alors, très intéressant de voir, elle n'a pas 30 ans, il a plus de 60 ans, comment ils vont discuter autour de la jeunesse, donc ça veut dire en gros l'avenir, de la planète. De voir comment les jeunes ne sont peut-être pas forcément les plus écolos aujourd'hui. Et il y a aussi des raisons pour ça. Salomé Sacquet le dit très bien en disant « ben oui, il y a une précarité de la jeunesse aujourd'hui, et est-ce qu'effectivement ils vont être si mobilisés pour ça ?» Et puis des gens comme Jancovici qui montrent bien, lui, sur la répartition de la richesse, il dit par exemple ceci « ma conviction, c'est que si on ne se restreint pas volontairement, ça donnera une régulation involontaire, donc des phénomènes de stress, des régimes totalitaires, des famines, des gens qui se tapent dessus, etc., etc. » Donc c'est un petit fascicule qui est assez court, qui se lit très vite, j'aurais même tendance à vous dire qu'il se relit, pour justement qu'on puisse avoir cette vision de deux générations sur un peu le monde d'aujourd'hui, ce qui nous attend, et surtout sur la place des jeunes, donc de l'avenir. Et donc le titre, « Les jeunes peuvent-ils sauver la planète ?» Dialogue entre Salomé Sacquet et Jean-Marc Jancovici chez Tandem.
Allez, encore un chouette livre à mettre sur notre table de chevet. Et pour clôturer cette émission, je vais maintenant laisser le micro à Bernard qui est de retour. Bernard, tu es là pour nous donner en toute beauté les dernières nouvelles du gigantesque projet, grand projet local inutile. J'ai nommé le port de plaisance de Bordelan de M. Pommeret, maire de Hans. À toi Bernard.
Les actualités du port de plaisance d'Anse.
Citoyennes, citoyens, vous qui vous offusquez des délires trumpistes ou des errements musqués, il est bien inutile de franchir l'Atlantique pour s'indigner d'actions antidémocratiques. Sans dépasser le cadre de notre cher hexagone, on en trouve partout, des kilos, même des tonnes. L'exemple vient d'en haut. Depuis que Jupiter montre que du climat, il n'en a rien à faire, pas plus d'ailleurs que de la biodiversité, chaque jour nous apporte son lot d'absurdités. Menaces sur l'ADEME, l'ONF, l'OFP et plein d'autres qui nous laissent carrément bouche bée. Alors, évidemment, il y en a que ça encourage, qui peuvent enfin laisser libre cours à leur rage trop longtemps contenue mais désormais admise, avec au bout du compte un fatras de sottises. Le département du Rhône leur a ouvert la voie. Des anti-écolos, il est le porte-voix. Après avoir voté à l'unanimité moins une, pour cause d'une missive qu'il juge importune, l'arrêt des subventions, voilà qui est radical, pour trois associations d'intérêt général, FNE, LPO et Arthropologia, qui sont ainsi traitées pire que des parias. En cause, c'est bien sûr le port du Bordelan. Dossier démesuré, monstrueux, désolant. Voilà que ces trois-là ont eu l'outrecuidance, inquiet de ce projet rêvé par le maire d'Anse, de questionner l'usage de notre argent public. Un acte citoyen qui paraît bien logique, sauf aux yeux d'une poignée d'élus mal embouchés, roitelés, dérisoires, nullement effarouchés par leurs responsabilités, ignorant les enjeux, survivant sans conscience d'un monde moyenâgeux. Nous ne pouvons par contre que les féliciter pour avoir malgré eux fait la publicité d'un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Les soutiens ont bondi et ça, c'est le bonheur. Citoyennes, citoyens, rhodaniennes, rhodaniens, continuons à lutter contre ce projet malsain. Si ce n'est déjà fait, signez la pétition en attendant bien sûr les prochaines élections. Venez danser pieds nus, venez manger des graines, pédalez avec nous sans violence et sans haine, comme partout en France, dans le Tarn et ailleurs, construisons tous ensemble des demains prometteurs.
Et merci Bernard pour cette plume acérée, mais tellement juste. Et vous pouvez effectivement retrouver la pétition qui est en cours sur la plateforme Green Voice. On a atteint au dernier comptage, c'était à peu près 5400 signatures. Donc n'hésitez pas à aller la signer, à la faire passer autour de vous. Et si vous voulez rejoindre la lutte contre ce GPI, ce grand projet inutile local, eh bien contactez-nous à villefranche69@alternatiba.eu ou bien prenez contact via nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. On a vraiment envie de poursuivre, pieds nus ou pas pieds nus, mais effectivement de continuer la lutte contre ce projet grandement inutile et tellement coûteux pour la collectivité locale. Merci Bernard encore une fois. On retrouve des actualités du Bordelan dans notre prochaine émission. À la technique ce soir, il y avait la brillantissime Gaëlle. Merci à toi derrière dans ce studio. Et un très très grand merci aussi à deux alternatibiens et bien de génie, Monique et Jean-Christophe, qui ont contribué à cette émission que j'ai eu le plaisir de préparer et d'animer. À la prochaine et à bientôt.
Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade, ma radio.